c'est les grandes gueules.
Gilles Platret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président des LR, maire de Chalon-sur-Saône. Vous avez écouté hier le président Macron, enfin le président Vulcain. non, il en a fait des clins d'œil pour vous séduire, vous, à droite. La réforme des retraites dès l'été 2023, une réforme du marché du travail, une réforme de l'assurance chômage, du RSA, c'est pour vous faire plaisir, ça.
Vous croyez qu'on a sauté de joie en écoutant le président Vulcain, puisque vous reprenez sa métaphore météorologique? Non, je crois qu'il a soufflé le chaud et le froid. Il paraît qu'il y a des coups de chaud nocturnes à l'Assemblée, d'ailleurs, dont nous serions co-responsables, si je l'ai bien écouté. Mais j'ai surtout entendu un président qui, aujourd'hui, n'a plus de majorité pour gouverner et essaye, par tous les moyens, de dire peut-être qu'on y arrivera un peu avec les Républicains, etc. Franchement, ce n'est pas de nature à nous faire changer de ligne. Il n'y aura pas d'accord de gouvernement, ça, on l'a dit et redit. Et on travaillera texte par texte. Oui, à partir de là, je ne suis pas sûr que ça soit une offre de service qui l'attende. En tout cas, ce n'est pas à ce niveau-là.
Oui, mais au-delà de votre position, non, pas de coalition, je ne comprends pas, parce que sincèrement, vos électeurs, ils veulent une réforme des retraites. Vos électeurs, ils veulent que le marché du travail soit plus souple. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous allez leur dire? Ah bah non, vous comprenez, aussi, comme c'était Macron, on n'a pas voulu.
Ils sont aussi contre la faim dans le monde et contre la canicule. Hein. On peut additionner les généralités en disant nos électeurs veulent ça.
Vos électeurs, ils n'ont pas envie que vous votiez comme les insoumis.
Ah non, mais nos électeurs nous ont élus, en tout cas ils ont élu une soixantaine de députés républicains pour être dans l'opposition. Et tous les bulletins de vote qui n'étaient pas bulletins...
Bête et méchante.
Non, mais c'est quoi une opposition bête et méchante?
Bah c'est de voter avec les insoumis.
Non. C'est pas ça. D'abord, chaque député est libre de son vote. Quand vous regardez, même le vote qu'on a contesté l'autre soir sur le pass vaccinal, il est beaucoup moins unanime qu'on a bien voulu le dire, parce que certains députés ont voté pour. Donc, revenons simplement au fait. On a été élus pour nous opposer à la politique de M. Macron telle qu'il l'a présentée dans son projet présidentiel.
Même quand ce sont des choses qui vont dans
votre
sens ?
Bien sûr que non, parce que ça s'appelle le débat parlementaire. On a l'impression que c'est un truc qu'on connaît pas en France.
Sur la réforme des retraites, par exemple.
Mais sur la réforme de retraite, on a avancé nous-mêmes des propositions. S'il y a des choses qui vont dans le sens des propositions qui nous semblent être conformes à l'intérêt général, on va pas s'opposer pour le plaisir de s'opposer. Mais ça s'appelle juste le jeu parlementaire, ça n'a rien d'extraordinaire. D'accord. On a l'impression qu'il faut qu'on se justifie de voter des choses qui pourraient aller dans le bon sens. On s'opposera à ce qui nous contrarie, parce que ça contrarie une vision de l'intérêt général qui est la nôtre, et on ira du côté des bonnes choses quand elles apparaîtront et qu'elles seront négociées s'il y a un vrai débat parlementaire.
À part le pass vaccinal, ça va être quoi? Parce que la réforme des retraites, effectivement, ça va dans votre sens. La réforme sur le marché du travail, ça va dans votre sens.
Je pense que le jour où il va faire un
budget où il va supprimer des fonctionnaires dans les collectivités locales, vous allez dire oui.
Mais non, donc, mais non, justement. Ah bon, mais non, mais non.
Ah bon,
vous êtes sur. Non, mais là, vous êtes. Non, mais très honnêtement.
Vous voulez supprimer 50 postes de fonctionnaires.
Vous êtes. Enfin, il ne faut pas rester sur des schémas. La droite n'est pas contre les fonctionnaires, déjà, pour commencer.
Bah, 150 000 fonctionnaires.
Attendez, c'est pas contre les fonctionnaires. Quand on parle de non-renouvellement, de départ en retraite, c'est pas des suppressions de postes.
D'accord.
C'est fait juste une différence.
Ah bon?
Donc, mais non,
ah bon,
bien sûr que non. Mais bien sûr que non.
C'est-à-dire, c'est de la disparition de postes, c'est-à-dire des postes qui s'auto-disparaissent.
Je vais jusqu'au bout, si vous me laissez parler. Quand on parle de suppression, on a l'impression qu'on prend des postes existants et qu'on va rayer et supprimer des emplois existants. Ah ça n'a jamais été ça.
Vous avez
la réforme
des postes,
de. Mais on ne remplace pas.
Un prof en moins, c'est un prof en moins après.
Mais attendez, je suis pas sûr que, vu les difficultés de recrutement qu'on a dans l'éducation nationale en ce moment, ça soit la priorité de supprimer des postes de prof, très honnêtement.
Ouais.
Parce que là, on est au devant d'un gros problème qui est lié sans doute à l'attractivité du métier. Enfin, c'est pas le débat aujourd'hui. Mais franchement, je pense que c'est pas là qu'il y a des recherches de postes à supprimer, à trouver. Simplement,
si
on ne supprime pas des postes
à Bercy ou à l'environnement comme il l'a fait dans ses derniers budgets. Vous allez dire oui, là. Vous allez pas dire non.
Écoutez, moi, j'ai pas l'impression que la France soit moins bureaucratique qu'il y a 5 ans. Ou alors, je me suis trompé. Je pense que l'administration centrale est toujours aussi puissante dans ce pays et que sans doute, des autorités administratives indépendantes, on peut rentrer dans le détail, mais des autorités qui ont poussé ces 20 ou 30 dernières années, vous voyez, je vais bien plus large que le quinquennat de M. Macron, auraient besoin d'être sacrément toilettées.
Donc
oui, il y a des économies à faire.
Moi, c'est ça que où vous allez vous opposer? Je vous parle sur l'économique, c'est-à-dire retraite, travail, aide aux entreprises, je sais pas. Où est-ce que vous allez vous opposer? Je vois pas sur le pass vaccinal.
Mais il y a plein de choses.
Sur d'autres, mais sur ça, je ne vois
mais
pas.
Mais si, parce que je disais tout à l'heure, 5 ans, c'est long. Ouais. Et 5 ans, c'est long, ça veut dire que des tas de textes.
Pas 5 ans, rien.
On verra. Moi, je sais pas si la dissolution.
Maximum 6 mois. Moi.
Vous pensez qu'il y aura une dissolution dans 6 mois?
Allez, 6, ouais. Puisque c'est quelqu'un qui.
Je n'en sais rien. Je ne m'avancerai pas sur le sujet. Vous croyez ça aussi?
Claire, tu crois pas?
Grand maximum.
Tu crois pas à cette majorité relative? Pourquoi?
Parce qu'elle n'avancera pas. Ça va vraiment. Ils vont tout faire pour freiner le pays. Ils sont
qui tout c'est eux c'est donc les LR
les LR on sait pas trop où ils habitent, ils savent faire des arrangements sur le terrain
voilà.
Et
les
après quand
en fait.
Ils arrivent à l'Assemblée, ils donnent l'impression d'être contre nous alors que sur le terrain
c'est vrai,
ils arrangent même pas.
Venez donc voir chez moi si on est contre, on est pour LR, vous allez voir.
Je vous en parlerai tout à l'heure, mais vraiment avec ce qui s'est passé dans l'heure et le candidat sur la 5e, vous l'avez vraiment pas aidé, vous l'avez vraiment
les électeurs
il y a vraiment ça. Là, il y aura automatiquement un blocage. Et la France ne peut pas se le permettre.
Mais où
les
le
Français
blocage,
n'ont pas choisi de blocage.
Alors, Gilles Platret,
les Français ont choisi autre chose.
Évidemment, si l'opposition était suffisamment intelligente.
Ah, ça y est.
Je me permettrai peut-être de réagir.
Au lieu de dire du non pour du non, mais faire des amendements qui améliorent vraiment, vraiment, vraiment la loi. Et si notre groupe de la REM était aussi intelligent pour accepter
ces amendements,
de façon à ce que ça aille dans l'intérêt général, là, l'Assemblée servira à quelque chose. Mais ce n'est pas parti comme ça.
C'est
chacun pour soi. On est là, on pense à 2027, on s'en fout d'aujourd'hui. Et on déstabilise complètement le pays. Et là, ça ne durera pas plus d'un an.
Gilles Platret.
On est en train de redécouvrir ce que va être le débat parlementaire. Avouons qu'on est au tout début. Puisque
on n'a jamais vraiment connu en France, puisque la majorité relative, il y en a eu 88, deux de mémoire.
Ouais, 88 surtout.
Et 62.
Elle était beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, même en étant relatif. Et c'est vrai que le début de la 5e, c'était moins simple qu'on l'imagine. Hein. Tout ça s'est mis en place progressivement. Simplement, moi je suis d'accord avec vous. Le vrai mécanisme parlementaire, celui qui marche bien, c'est on laisse un peu les étiquettes de côté et on travaille dans l'intérêt général. Mais il faut pour ça, vous avez, alors là pour le coup vous avez raison, il faut déposer des oppositions, et je vous rejoins, qui ne soient pas systématiquement dans la critique et qui veulent faire tomber un gouvernement. Je ne pense pas qu'LR soit dans cet objectif-là aujourd'hui, je le dis très honnêtement. Sans doute d'autres sont-ils dans d'autres logiques.
Absolument.
Plus extrêmes, plus contestataires, etc. Mais il faut aussi, et vous l'avez très bien rappelé, dans un souci d'honnêteté, qu'on ait un gouvernement et une majorité même relative qui accepte ce jeu parlementaire.
Ça m'a toujours gêné, même pendant ma mandature.
C'est tout à votre honneur.
J'ai voté plusieurs amendements venant de chez vous et j'ai même voté une fois, alors vraiment, parce que c'était vraiment très bien, un de Mélenchon. Et vraiment, tout le monde rigolait autour de moi.
Vous savez,
c'est pas vrai, même tu vas le faire.
Je pense qu'on doit revenir à ça.
Dans le bon sens, il faut savoir accepter.
Il n'y a pas d'autre choix. Et la nécessité fera la loi. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas aujourd'hui faire passer des textes s'il a tout le monde contre lui. D'accord. C'est d'ailleurs la démonstration qui a été faite l'autre soir. Donc qu'il écoute, qu'il amende, qu'il accepte les amendements de bon sens et on verra texte par texte ce qui se passera.
Mais monsieur Platret,
je parle bien de l'amendement, il n'y a pas de loi.
Monsieur Platret, quand le président de la République considère que 45% quasiment des électeurs ont juste eu un coup de chaud nocturne et que tout ça c'est circulé, il n'y a rien à voir, et qu'en réalité, on l'a vu dans son interview d'hier, il n'a pas vraiment, il vous a fait des clins d'œil, mais pour autant il ne vous a pas tendu la main.
Il a dit, c'est pas grave
parce que sinon j'ai le référendum, j'ai le référendum ou les conventions citoyennes. Donc comment est-ce que vous comptez en réalité travailler avec le président de la République, puisqu'en réalité, il vous dit, c'est pas grave, moi, je gouvernerai par référendum.
Ah, mais nous, on compte pas travailler avec le président de la République. Je me permets juste de le dire. Si quelqu'un a à faire des gestes, c'est bien le pouvoir exécutif. Pour le moment, moi, je les ai pas sentis, très honnêtement, dans l'interview d'hier. Écoutez, l'interview d'hier, après, je n'en veux à personne, mais on est quand même passé à côté des grands sujets de préoccupation des Français. Le pouvoir d'achat, on n'en a pratiquement pas parlé. La sécurité, même le Stade de France n'a pas été abordé. La santé, pas un mot. Les trois sujets de préoccupation première des Français n'ont pas été abordés dans l'interview d'hier.
Vous remarquez que les journalistes leur ont proposé de questions.
Mais j'ai mis tout le monde. C'est pas que la faute de M. Macron, mais j'ai été surpris que ces questions ne viennent pas à un moment donné. C'est quand même ce qui touche. Je suis maire, vous l'avez rappelé, sur le terrain, loin des débats politiques parfois un peu artificiels qu'il peut y avoir au national. On nous parle de quoi? Mais de ces trois sujets-là aujourd'hui. Et pourtant, ces sujets ne sont pas venus dans la bouche du président ni dans celle des journalistes, je vous l'accorde.
Hier, le président de la République vous a invité à prendre le café à 16h, à prendre l'apéro à 18h, à dîner à 20h et à passer la nuit.
Mais il n'a pas dû dire le lieu, à mon avis. Hein.
Avec les LR hier. C'est ce qu'il a essayé et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, c'est mon avis tout à fait personnel. Je pense que dans 6 à 10 mois, il fait sauter l'Assemblée nationale en faisant la dissolution, parce qu'il va s'énerver un jour, que vous allez bloquer une loi ou un truc comme ça, qui va s'énerver, qui va dire, écoute, on dissout. Et il va le faire, c'est sûr.
Les Français aussi s'énerveront.
Ouais, c'est pas sûr.
Mais dans quel but
tu verras que les Français vont être tellement dégoûtés pendant ces 10 mois de non, pas moi, oui, toi, non, moi je vais te bloquer ton projet, ils vont voir comme quoi le pays stagne, qu'ils vont vouloir avoir une majorité. Ça, c'est très.
Mais l'auront-ils ? Est-ce que la dissolution est susceptible de les
amener ? Mais quelle majorité ? Peut-être qu'ils voudront une majorité qui ne sera pas sur le projet présidentiel.
Peut-être, ah bah, c'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, ils voudront que les choses bougent. Mais que ça soit dans un sens ou dans un autre. Mais pas comme ça, une fois tu me tiens, une fois je te tiens.
Moi, je pense très honnêtement. D'abord, il faut que tout le monde la veuille. Excusez-moi de rappeler ça, mais si vous avez des députés qui n'ont pas envie de censurer le gouvernement, je vois pas en nom de quoi Emmanuel Macron dissolverait l'Assemblée nationale. Enfin, souvent,
Jacques Chirac l'a fait.
Oui, bah écoutez, avec la fortune qu'on connaît, voilà. Je pense pas que ça soit un modèle du genre du côté de l'Élysée à réélire. Mais très honnêtement,
la fortune, mais c'est quand même
fait
réélire.
Moi, ce qui m'interpelle, c'est dissoudre pourquoi. C'est ma lecture personnelle de ce qui s'est passé au mois de juin. Je pense que les Français ont voulu opposer quelque chose au président de la République en ne lui donnant pas.
Bien sûr.
La vérité, c'est que aucune majorité ne s'est dégagée. Est-ce qu'on peut être certain derrière que une dissolution va amener une vraie majorité qui donc dans ce cas-là amènerait une cohabitation? Moi, je ne pense pas. Donc, on est dans une période un peu intermédiaire où d'un côté, on a un président de la République qui a été réélu dans des conditions qu'on peut critiquer parce qu'il a été élu plus contre quelqu'un que pour son propre programme.
Comme en 2017.
Mais ça existe. Mais Hollande a été. Non mais Hollande avait été élu aussi contre Sarko, rappelez-vous.
Hollande a été élu contre Sarko au premier tour. On peut penser que 20% du premier tour, c'est 28% de l'adhésion.
On est d'accord. Plus que les autres. Sur le premier tour, c'est certain. Simplement, encore une fois, il est élu, on peut pérorer pendant des heures, il est réélu, il est là. Mais ce qui s'est passé au mois de juin, c'est un non au président de la République en disant, nous ne souhaitons pas. Et d'ailleurs, les premiers sondages d'après la présidentielle nous disaient, 60% des Français ne veulent pas que le président soit majoritaire à l'Assemblée. C'est exactement ce qui s'est passé. 61% des députés ne sont pas macroniens aujourd'hui. Ouais. Et quel que soit le bulletin vote, France Insoumise, RN, etc. Ce bulletin a été pris par l'électeur pour dire non à Monsieur Macron. Mais derrière, ça fait pas une majorité. Donc on est dans une période un peu intermédiaire où le président n'a pas de majorité, mais où une autre majorité alternative ne s'est pas dégagée. Et je pense que la dissolution, si elle est trop précoce en tout cas, ne permettrait pas d'en dégager.
Chez vous, ce qui est compliqué chez LR, c'est que il y a eu cet échec de Valérie Pécresse.
C'est évident. Cinglant. Quand 95% des Français votent pas pour vous, ça s'appelle plus qu'un échec, c'est une déroute.
Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Ce qui s'est passé, je pense que
abattu médiatiquement.
J'accuse pas du tout les journalistes. C'est tellement facile de dire que c'est la faute des journalistes, mais je pense que en fait, d'abord, LR a, c'est tellement devenu un syndicat d'intérêt personnel, une espèce de maison où on protège des prébendes, qu'il n'y a plus de débat doctrinal. Quelle est notre ligne aujourd'hui? Quelle est la ligne de la droite républicaine? Et si on n'a pas le courage de poser cette question, et ben vous avez la réponse des Français.
Et c'est quoi justement?
Ben, c'est tout le débat et tout le travail qu'il faut qu'on mette maintenant.
Vous ne pensez pas que la figure tutélaire de Nicolas Sarkozy pèse et en réalité vous a fait beaucoup plus de mal?
Non, je ne crois pas.
De Sarkozy, vous devriez le faire.
Je ne dis pas. Alors, je vais même remonter jusqu'à Jacques Chirac. Je vais vous dire, je prends un exemple très clair pour répondre à un début de réponse à votre question. Quelle est notre ligne? Vous vous rappelez du référendum perdu de 2005 sur l'Europe? Depuis, on n'a pas fait du tout l'inventaire de cet échec. Est-ce qu'on est plutôt souverainiste? Est-ce qu'on est plutôt européen? Ah non, mais moi, je pose des questions. Elles ont gêné dans cette maison de LR pendant des années et des années. Mais si on ne les met pas sur la table maintenant, on n'arrivera à rien. Quel est notre rapport à la nation? Est-ce qu'on pense que la nation est dépassée au profit de l'Europe, par exemple? Ou est-ce qu'on pense que les réalités nationales ont un rôle? Vous voyez bien qu'on a des thèmes structurants qui ont été évacués du débat. Je vais à un autre sujet. La défaite de Nicolas Sarkozy. On n'a jamais fait le bilan. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy, alors qu'il avait suscité un espoir extraordinaire en 2007, a été battu en 2012? Il y a des circonstances objectives, d'autres peut-être subjectives, mais on n'a pas fait ce bilan. À chaque fois qu'on a eu un problème, on a mis la poussière sous le tapis, on a dit, on pense à l'élection qui vient. Et finalement, on finit avec 90% des Français qui nous écoutent.
Un peu la même chose, non?
Mais
vous êtes un peu en train de faire la même chose. Vous êtes en train de dire, de toute façon, Macron, il ne peut pas se représenter, on verra dans 5 ans.
Non, il faudrait.
On ne voit pas beaucoup le travail de réflexion et de remise en cause.
Je pense que c'est précisément. Pour être très honnête, il a déjà commencé. Il y a quand même des groupes aujourd'hui qui commencent vraiment à se pencher sur le fond. Ça fait pas de bruit. Et pour le moment, ça n'a pas à en faire, d'ailleurs. Ce sont des groupes qui considèrent que il faut avancer concrètement sur un débat, idéologique. Bien sûr.
C'est Barbara parce qu'elle veut pas qu'on les tue, donc on est obligé de les laisser vivre. Il y a deux mouches.
Mais Monsieur Platré,
on tue pas les mouches aussi.
Laurent Wauquiez, en 2017, il essayait justement de clarifier une ligne au sein des LR. Et on ne lui a même pas laissé l'opportunité de se relever de cet échec aux européennes. François-Xavier Bellamy, ces gens-là, ils essayaient de redonner une ligne à LR. Ouais. Non, mais ça n'a pas marché parce qu'on n'aura même pas laissé le temps de restructurer le parti.
Alors,
on les a virés tout de suite.
Je pense
que c'était la bonne ligne.
Mais au moins.
Il aurait fait peut-être plus que 5%.
Il y avait au moins un souci de clarification. Maintenant, je vais aller jusqu'au bout. Il faut qu'on s'interroge sur les conditions, enfin en tout cas les suites de la création de l'UMP. Quand on a décidé de rassembler dans la même famille l'ancien RPR et l'ancien UDF, c'est-à-dire une gaulliste un peu droite ferme, dure, on pourrait dire, si on la qualifie de trop dure, allons-y, mais en tout cas, elle était affirmée, et de l'autre, les centristes. Moi, j'ai fait les frais de ça quelque part. Quand il m'est arrivé, j'appartiens plutôt effectivement à la ligne RPR qu'à la ligne UDF, ça tout le monde le sait. Mais quand j'ai affirmé un certain nombre de positions qui pouvaient être combattues, mais quand vous avez dans votre même famille politique quelqu'un qui, l'après-midi où vous avez pris la parole le matin, va sur les plateaux pour vous dire c'est nul, c'est immoral, etc., comment voulez-vous que les Français vous fassent confiance? Moi, je pense qu'il faut de la cohérence dans un parti politique. Alors, ça doit pas être une caserne, mais ça peut pas être le bordel non plus. Et donc, il y a quelque chose à trouver et à reconstruire.
Qui peut incarner le renouveau?
Bon, alors là, pour le moment, très honnêtement, il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Moi, j'ai pas de solution clé en main. Je le dis très honnêtement. C'est déjà une réponse.
Oui, c'est déjà une réponse. Merci, Gilles Platret.
Merci
d'être venu à la table des grandes gueules.